Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 26 juin. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au sommaire, le journal, les sports et le personnage de la semaine. Et ce focus sur Clarence Thomas, le juge très controversé du paysage juridique aux États-Unis. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce 26 juin. La Norvège enquête sur un acte terroriste après une fusillade mortelle dans la capitale Oslo. Des militants pro-avortement participent à des rassemblements aux États-Unis. Le Premier ministre australien Anthony Albanese se rend en Espagne pour une réunion des dirigeants de l'OTAN. Le Premier ministre norvégien a déclaré que la fusillade mortelle dans une boîte de nuit à Oslo faisait l'objet d'une enquête en tant qu'acte terroriste. La police a inculpé un ressortissant norvégien de 42 ans de meurtre, tentative de meurtre et acte terroriste. L'homme originaire d'Iran avait été interrogé par la police en mai dernier et considéré comme n'étant pas une menace. Deux personnes sont mortes et 21 personnes blessées dans la fusillade qui a visé un bar juste avant le défilé de la Gay Pride d'Oslo. Cet événement a été annulé sur les conseils de la police. Le Premier ministre Jonas Gahr Støre a déclaré que la communauté LGBT avait attendu avec impatience la marche des fiertés.
We had expected a lively and enthusiastic parade through our streets of people celebrating Pride after 3 years of pandemics and other standstills. Instead, we have a dark day where terror struck Oslo this night. Everything indicates that this has been an attack by extreme Islamists. This is under investigation, and I cannot draw conclusions from that investigations, but we have 2 people killed, 21 people injured, and a lot of people afraid.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays reprendrait le contrôle de toutes les villes prises par la Russie, y compris Severodonetsk. Les forces ukrainiennes ont fui la ville qui est en ruine après plusieurs semaines de combats. La prise de la ville par la Russie signifie qu'elle contrôle désormais presque toute la région de Luhansk et une grande partie du Donetsk voisin, les deux régions qui forment le Donbass. C'est le plus gros revers pour l'Ukraine depuis la chute de Mariupol. Le président Zelensky déclare qu'aucun nombre de missiles ne brisera l'esprit des Ukrainiens.
Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний прорахований тиск.
It's not just the destruction of our infrastructure, it's also a very cynical, calculated pressure on the emotions of our people. But we will not be under pressure, we will apply pressure. No Russian missiles, no strikes can break the spirit of Ukrainians. And each of their missiles is an argument in negotiations with our partners.
L'Australie fournira une aide d'urgence supplémentaire d'une valeur de 1 million de dollars pour soutenir le peuple afghan après le tremblement de terre de cette semaine. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que l'aide sera fournie par les agences des Nations Unies qui opèrent dans la zone touchée et contribuera à financer le coût du logement, de la nourriture et de l'assistance médicale. L'aide s'ajoute aux 140 millions de dollars promis à l'Afghanistan depuis septembre de l'année dernière. Le Premier ministre australien Anthony Albanese se rend en Espagne pour une réunion des dirigeants de l'OTAN. L'Australie n'est pas membre de l'OTAN, mais Anthony Albanese a été invité au Forum de Madrid. Le Premier ministre se rendra ensuite en France pour des entretiens avec le président français Emmanuel Macron. Les autorités sanitaires avertissent qu'un sous-variant Omicron de Covid-19 qui peut échapper à l'immunité vaccinale circule et les cas augmentent dans le Victoria et en passe de devenir le principal variant de l'État. La surveillance des eaux usées a montré que les traces de la variante BA4, BA5 ont considérablement augmenté ces dernières semaines. Et les cas de contamination de Covid augmente en France et on se pose la question sur le port du masque dans les transports, dans les endroits clos. Écoutez ces témoignages recueillis par RFI.
Moi, je le porte encore au boulot tous les jours, toute la journée. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de mal à porter le masque le reste du temps.
Je pense qu'on l'a déjà porté, donc ça suffit. Et puis, advienne que pourra. Hein.
Je porte le masque pour me préserver moi-même, déjà, d'une part. Et pour également préserver les autres. C'est un choix de chacun.
Dans les transports, on fait quand même attention. Enfin, on essaye de faire attention, on se lave les mains, tout ça.
C'est dur, en fait, de se dire on a eu nos libertés, on retrouve la vie d'avant, on retrouve notre jeunesse. Et du jour au lendemain, bah, c'est reparti et tout. Même si ça serait mieux de remettre le masque, en fait, je sais pas.
Avec la chaleur qui arrive, oui, ça serait une contrainte. Mais c'est vrai que ça serait mieux pour les personnes avec qui on reste, avec la famille et tout, pour les protéger le plus possible.
Le sommet du G7 aura lieu à partir de ce dimanche dans le sud de l'Allemagne. Les altermondialistes se mobilisent pour dénoncer la rencontre. Hier, il y avait des manifestations à Munich. Pascal Thibault, RFI.
It's about global security, peace and climate justice.
L'important, c'est la sécurité globale, la paix et le climat, mais nous savons qu'ils s'en fichent. Sur le site de la fête de la bière, le ton était plus revendicatif que pour l'Oktoberfest. Groupe marxiste-léniniste, autonome en noir et autres groupes dénonçant l'impérialisme rejetaient complètement la rencontre du G7. Cette retraitée, obligée de travailler pour survivre, arborait un t-shirt avec le slogan « Je m'en fous ».
C'est trop d'argent, 2 jours, on fait blabla et je crois pas qu'il y ait... change quelque chose.
Les 15 ONG qui organisaient la manifestation, comme Greenpeace ou ATTAC, prônent une opposition plus constructive. Lisa Yucke travaille pour Action contre la faim.
Le G7 est un groupe de pays qui n'a pas un mandat officiel pour faire des décisions sur les sociétés globales. C'est un groupe important, mais ce n'est pas légitimisé.
Action contre la faim, comme d'autres ONG, a accompagné les préparatifs du G7 et remis ses propositions au chancelier Scholz le mois dernier. Mais la mobilisation est sensiblement plus faible que dans le passé. 35 000 personnes avaient participé à une manifestation similaire il y a 7 ans. À Munich, quelques milliers seulement, plutôt des activistes purs et durs que Monsieur Tout-le-Monde, se sont mobilisés aujourd'hui.
L'Iran et l'Union européenne ont confirmé la reprise des pourparlers bloqués depuis des mois. Josep Borrell de l'Union européenne a fait cette annonce après avoir rencontré le plus haut diplomate iranien à Téhéran. Sa visite est une tentative de sauver un accord nucléaire de 2015 entre l'Iran et les puissances mondiales. Josep Borrell a déclaré que la Russie ne s'opposait plus à aucun accord. Selon lui, la guerre en Ukraine ne va pas rendre les choses plus difficiles.
But it's making things more necessary. The world today is much more insecure. This war is going to jeopardize a lot of things. It's creating price crisis on energy and food. In many countries, mainly in Africa, this will create social unrest. So the more supply of oil, the better.
Le sommet du Commonwealth a pris fin au Rwanda. Bilan de la réunion de 2 jours avec Laure Broulard pour RFI.
Dans leur communiqué final, les États membres évoquent la guerre en Ukraine et réaffirment à cette occasion leur soutien à la Charte des Nations Unies et aux efforts internationaux pour la paix. Ils s'inquiètent également de la flambée des prix qui met en péril la sécurité alimentaire des plus vulnérables au sein de l'organisation. Mais le sommet a surtout été marqué par l'entrée de 2 nouveaux pays dans le Commonwealth, le Gabon et le Togo. Il s'est également tenu en pleine polémique autour du partenariat migratoire entre le Rwanda et le Rwanda. Royaume-Uni, un sujet abordé au cours d'un tête-à-tête entre Boris Johnson et Paul Kagame jeudi. Lors de la conférence de presse finale, le président rwandais, qui a pris la tête du Commonwealth pour 2 ans, a longuement répondu aux critiques sur son bilan en termes de droits humains. Au Rwanda, nous avons des valeurs et nous n'avons de leçons à recevoir de personne, a-t-il déclaré, alors que les organisations de défense des droits de l'homme dénoncent une répression féroce de la liberté d'expression et de l'opposition dans le pays.
L'actualité ces derniers jours, dominée par la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis et en Europe, un seul État membre de l'Union européenne interdit l'avortement. C'est à Malte, comme l'explique Laxmilota pour RFI.
Un seul État membre interdit totalement l'avortement, y compris l'interruption médicale de grossesse. Il s'agit de Malte. Une touriste américaine en a cette semaine fait la douloureuse expérience. Le plus petit État de l'Union européenne a refusé de pratiquer un avortement alors que les jours de la jeune femme étaient en danger. Elle a finalement pu se rendre en Espagne. L'Espagne, où il est possible d'avorter jusqu'à 14 semaines de grossesse, tout comme en France. La plupart des pays européens autorisent l'interruption de grossesse jusqu'à 12 semaines en Allemagne, Italie, Belgique, Grèce ou encore en Hongrie. L'Irlande a interdit l'avortement jusqu'en 2018, mais un référendum l'a rendu possible. Ce droit est très limité en Pologne. L'IVG n'est possible qu'en cas de viol, d'inceste ou de danger pour la vie de la mère. Un droit fragile dans d'autres pays où des propositions de loi régulières cherchent à le restreindre, en Slovaquie ou au Portugal par exemple, où depuis 2015, les frais liés à l'arrêt de grossesse sont entièrement à la charge des patientes.
On passe à la météo pour ce dimanche. En Australie, à Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 15. Melbourne, 12. Hobart, 11. Canberra, 14. Sydney, 20. Brisbane, 23. Cairns, 27. Darwin, 32. Et à Alice Springs, un maximal de 20 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche 26 juin. La Norvège enquête sur un acte terroriste après une fusillade mortelle dans la capitale Oslo. Le Premier ministre australien Anthony Albanese se rend en Espagne pour une réunion des dirigeants de l'OTAN. Fin du journal et merci de rester avec nous.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le cyclisme et ce dimanche il y aura la course championnat de France d'une distance de 240 km et on est à quelques jours je vous rappelle du Tour de France édition de 2022. MotoGP, le Grand Prix des Pays-Bas c'est aussi ce dimanche, 11e manche du championnat du monde. Et puis c'était la fin des mondiaux de natation à Budapest. L'Australie termine avec 17 médailles, dont 6 en or, 9 en argent et le reste en bronze. Et on passe maintenant au bilan des Français et des Françaises avec Martin Guez et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Allez Léon Marchand qui est parti, Léon Marchand qui est en tête,
qui va chercher ce titre
15 mètres. Oh le Marchand de bonheur, le Marchand de rêve, champion du monde.
Et nous avons du rêve, le Marchand d'or, Léon Marchand, 20 ans. Est devenu cette semaine à Budapest le nageur français le plus titré sur une édition des championnats du monde grand bassin. Et ce, pour sa toute première participation, j'accueille en studio pour nous faire les présentations Thomas de Saint-Léger. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Martin.
Alors vendez-nous du rêve et des métaux précieux. Si on récapitule, Léon Marchand est devenu champion du monde du 400 quatre-nages, champion du monde du 200 quatre-nages, vice-champion du monde du 200 papillons, le Toulousain qui repart donc de Hongrie les bras très chargés.
Il brasse les médailles, ce Léon, fils de Marchand, Xavier Marchand, vice-champion du monde lui aussi en 1998. Ce Toulousain est donc né dans le Grand Bain. Il a su sortir quand même de sa zone de confort, quitter sa ville, son pays, pour aller s'entraîner depuis l'an dernier aux États-Unis sous le sifflet du maître Bob Bowman, le mentor du plus grand nageur de l'histoire, Michael Phelps.
Bon moment pour exploser à 2 ans des Jeux Olympiques de Paris.
Des JO à domicile pour un garçon qui aura alors 22 ans. Peut-on rêver? Meilleure occasion de briller. L'objectif en tout cas est coché et il sera bien préparé, nous promet le chef d'équipe des Bleus, Denis Augouin.
Je crois que son rêve, c'est pas de gagner aujourd'hui, c'est de gagner dans 2 ans. Mais bon, il est entre de très bonnes mains et avec un entraîneur qui a une expérience incroyable de ce genre de situation. Donc il n'y aura pas d'euphorie dangereuse. Cela dit, c'était le moment de sortir 2 ans avant les Jeux. C'est globalement le timing.
Dans les temps, Léon Marchand, symbole de la nouvelle vague française. 8 médailles en tout à ces mondiaux de Budapest contre 1 aux Jeux Olympiques de Tokyo. L'an dernier, c'est prometteur.
Foot, il y avait des matchs amicaux hier, les matchs amicaux féminins France-Cameroun et la victoire des Françaises contre les Lyonnes indomptables 4-0. C'était aussi un match en préparation pour l'Euro, comme nous l'explique Martin Guez et Tom Rossi pour RFI.
Oui, large défaite et large succès pour les Bleus, un succès logique. Elles étaient supérieures dans tous les domaines, les Françaises. Grosse domination en première période, quelques arrêts décisifs et des sorties hasardeuses de la gardienne camerounaise Ange Baou. Premier but à la demi-heure de jeu, celui de la très remuante Melvin Mallard, la Lyonnaise seule, plat du pied, sécurité 1-0. Puis 2-0 suite à une mauvaise sortie de la gardienne, Grieg Bock en profite. Les Lyonnes sont privées de ballon, une frappe lointaine, un centre dangereux, pas assez pour inquiéter les Bleus. Sous les yeux d'un certain Samuel Eto'o, le président de la Fédération de foot, était là, pas loin de Paris. En effet, il était là, Samuel Eto'o, beaucoup de monde autour de lui, difficile de l'approcher. 2-0 à la mi-temps pour les Bleus, comme en 2018, lorsque les Françaises avaient giflé les Camerounaises 6-0, déjà à l'époque. Là, ça fera 4, vous l'avez dit. Martin, je vous raconte la deuxième période, allez, on part sur les mêmes bases. Après la pause, avec des occasions bleues, un troisième puis un quatrième but de l'entrante, où les Matassar, 2 fois de la tête sur corner, puis de la maîtrise et d'autres occasions, 4-0, score final, 13e victoire de suite pour les Bleus.
Et voilà, des Françaises bien échauffées, Tom, bien préparées aussi avant l'Euro qui démarre bientôt en Angleterre.
Oui, tout à fait, c'était leur premier match de préparation pour ces Françaises qui restaient sur 2 semaines de stage intensif. Elles étaient émoussées. La sélectionneuse Corinne Diacre l'a d'ailleurs dit hier en conférence de presse que ça allait être difficile physiquement. Finalement, elles ont fait parler leur technique. Peut-être ce soir, les Bleues, elles étaient nettement supérieures. Elles vont affronter le Vietnam vendredi prochain avant de s'envoler pour l'Angleterre. Elles y affronteront lors du premier tour l'Italie le 10 juillet. RFI y sera.
Puis oui,
elles
affronteront
Exactement. Puis la Belgique et l'Islande. L'équipe de France à l'Euro, on est sur une grosse nation de football qui n'a jamais fait mieux que des quarts de finale. Donc cette année, l'objectif c'est au moins une demi-finale. Elles ont les armes. En tout cas, ce soir, elles se sont rassurées, les Françaises.
Sadio Mané, le Sénégalais, quitte Liverpool. Il a signé chez le Bayern de Munich. Précision avec Martin Guez et Philippe Auclair pour RFI.
Alors Sadio Mané a dit au revoir à l'Angleterre, il a dit goodbye à ce pays qu'il a connu pendant 8 ans et on imagine qu'il va laisser un grand vide chez vous.
Un grand vide et en même temps une grande trace à Southampton, bien évidemment un petit peu, mais évidemment surtout à Liverpool où il a joué 6 saisons. Je crois que c'est l'exemple type d'un départ qui se fait avec une certaine classe, une certaine élégance d'un côté comme de l'autre. On se doutait un petit peu des velléités de départ de Sadio Mané. Le club lui-même, d'ailleurs, les avait anticipés, puisque on se souvient du transfert de Luis Diaz au mois de janvier. Luis Diaz, qui comme par hasard joue dans un poste qui était franchement le poste de prédilection de Sadio jusqu'à l'arrivée du Colombien. On voit ensuite Liverpool qui fait arriver un autre attaquant de très très haut niveau, à savoir Darwin Núñez, pour une somme relativement conséquente. Hein. Donc on se dit, ils ont préparé la succession. Salah, Mohamed Salah, et lui, plus parti pour rester. On se disait, bon, pour Sadio Mané, qui vient d'avoir 30 ans, c'est peut-être le moment de tenter une nouvelle expérience. Il a tout gagné avec Liverpool, il a gagné la Coupe de la Ligue, il a gagné la FA Cup, il a gagné la Super Coupe, il a gagné la Coupe du Monde des clubs, il a gagné la Coupe d'Europe des clubs champions, ou la Champions League, comme vous voudrez, et il a gagné surtout le championnat d'Angleterre, après lequel Liverpool courait depuis 30 ans, et dans la conquête de tous ces titres, il a été absolument indispensable. C'est le cœur gros, mais un cœur gros à la fois de chagrin de le voir partir, mais aussi de reconnaissance. Je pense qu'on peut parler de lui maintenant peut-être comme du plus grand joueur africain à avoir évolué dans le championnat d'Angleterre, que Didier Drogba m'excuse, ou Tony Yeboah ou d'autres. Didier Okocha, il y en a eu quelques-uns qui sont passés par le championnat d'Angleterre, mais celui-là pour faire mieux que Sadio Mané, et également soulier d'or de la Première Ligue, ne l'oublions pas, et élu joueur de l'année par les supporters de Liverpool et les joueurs de Liverpool dès sa première année à Anfield en 2016-2017. Donc, un passage absolument remarquable. Il va laisser franchement une empreinte énorme. Et très honnêtement, les supporters de Liverpool, je crois, béniront toujours le jour où il est arrivé. Il avait coûté très cher à l'époque, plus de 30 millions d'euros, et on ne savait pas encore très bien quoi en attendre de Southampton. Je peux vous garantir que personne ne regrette cet argent dépensé aujourd'hui.
Et que pense Youssou N'Dour, la star sénégalaise de la chanson? Il est avec Annie Gasnier de Radio Foot, l'émission Radio Foot International. Youssou N'Dour était de passage à Paris pour des concerts.
Je pense que c'est un très bon choix. Parce que si on remonte, Sadio était à Salzbourg. L'Autriche, l'Allemagne, c'est très proche. Et je me souviens quand il montait vraiment depuis Salzbourg. Donc, il n'aura pas de problème de langue. Il va pas dépayser parce qu'il a été en Autriche quand même. Celui qui est en Autriche est presque en Allemagne. Et le Bayern, c'est très maîtrisé sur le plan sportif et médiatique. Et je pense que les boulettes qu'on entend des fois dans des équipes, des petites choses comme ça, la rigueur allemande fait que, bon, voilà. Sadio va bien se retrouver là-bas. Bon, il a été... avec nous au Sénégal, un peu partout. Je le voyais un peu fatigué. J'espère qu'il va tout de suite s'y mettre, mais c'est un bon choix.
Est-ce qu'il doit être resté plus en star du côté de Munich?
Je sais pas. Bon, je sens que Munich, c'est plutôt une équipe qu'on voit. Beaucoup plus. On va voir ce que Sadio va amener et tout. Et on aura les deux frères, pratiquement. Sané et Mané.
Est-ce que c'est un bon tremplin en pensant à la Coupe du Monde au Qatar pour le Sénégal?
L'impact de Sadio va dépendre beaucoup plus de sa saison qu'il vient de terminer quand même. Il a gagné la Coupe d'Afrique, avec Liverpool il est allé en finale, ils ont gagné la Coupe et tout. Je pense que c'est cette énergie-là qui va amener Sadio jusqu'à la Coupe du Monde. Et après, bon, tout ce qui va se passer au Bayern pour les 6 mois à venir, c'est un peu plus dans la tête. Mais c'est cette énergie de la Coupe d'Afrique et je voudrais qu'il termine avec tout ça, avec la Coupe du Monde.
On passe au tennis avec Wimbledon qui démarre demain. Novak Djokovic, tenant du titre, a parlé de l'interdiction des joueurs russes et biélorusses de ne pas pouvoir jouer à ce tournoi. On l'écoute.
As a child of a war, several wars actually during the 90s, I know what it feels like, you know, being in the position. So... but at the other hand, I can't say I fully agree to ban Russian tennis players, Belarusian tennis players, from competing indefinitely. I just don't see, you know, how they have contributed to anything that is really happening. I mean, it's just, I don't feel it's fair.
Et on revient sur quelques résultats des tournois qui ont pris fin avec la finale de Hambourg. En Allemagne, et la Française Caroline Garcia qui a battu la Canadienne Bianca Andreescu 6-7, 6-4 et 6-4 à Eastbourne. Kvitová, la Tchèque, s'est imposée contre Ostapenko, la Lettonne, en deux manches, 6-3, 6-2. Côté messieurs, à Majorque, Tsitsipas, le Grec, s'est imposé contre Bautista Agut, l'Espagnol, 6-4, 3-6, 7-6. À Eastbourne, en Angleterre, une finale 100% américaine avec Fritz qui s'est imposé contre Cressy. 6-2, 6-7, 7-6. Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Nous revenons à présent, comme chaque dimanche, sur un événement marquant de l'actualité et une personnalité qui lui est associée. Pour nous en parler aujourd'hui, nous sommes avec Léo Roussel. Bonjour à vous, Léo.
Bonjour, bonjour à tous.
Et aujourd'hui, vous allez revenir sur un personnage en lien avec une triste actualité cette semaine, la révocation du droit à l'avortement aux États-Unis.
Oui, aux États-Unis, cette semaine, l'actualité est digne du film culte Retour vers le futur. Sauf que là, ça n'a rien d'une comédie ou bien même de la science-fiction. La Cour suprême, la plus haute instance juridique du pays, a cru bon de payer un voyage dans le temps à sa législation en révoquant l'arrêt qui garantissait aux femmes l'accès à l'avortement. L'arrêt Roe vs Wade, adopté en 1973 et qui donc, 49 ans après, n'est plus. Alors concrètement, ça signifie que chacun des 50 États du pays peut désormais décider d'interdire l'avortement. C'est le cas de 13 États. D'autres ont d'ores et déjà annoncé qu'ils restreindront également ce droit. Et à la Cour suprême, l'un des juges les plus conservateurs qui soutenait cette révocation veut lui aller encore plus loin. C'est le juge Clarence Thomas et je vous propose d'en découvrir davantage sur celui qui souhaite à terme revenir sur d'autres droits constitutionnels acquis, comme le mariage homosexuel ou encore l'accès à la contraception.
Alors, qui est le juge Clarence Thomas ?
Eh bien, Clarence Thomas, il est membre de la Cour suprême des États-Unis depuis plus de 30 ans maintenant. C'est seulement le deuxième juge noir à prendre place à la Cour suprême lorsqu'il est nommé par le président George Bush, père, en 1991. Et si vous voulez trouver quelqu'un qui protège davantage la Constitution américaine telle qu'elle a été créée en 1787, eh bien, ce sera difficile de faire mieux que lui. Clarence Thomas est ce qu'on appelle un originaliste, c'est-à-dire qu'il défend une interprétation de la Constitution au plus proche de ce qu'elle signifiait lors de sa création.
Quels sont donc les points qu'il défend à l'encontre du progressisme ?
Alors, on l'a dit, il refuse que le droit à l'avortement soit inscrit dans la Constitution, mais ce n'est pas tout, puisqu'il défend la Constitution actuelle sur un tas de sujets qui font plus que jamais polémique encore aujourd'hui aux États-Unis. Vous l'aurez compris, on peut parler du port d'armes à feu dans le pays, pas plus tard que cette semaine, avant même de révoquer le droit à l'avortement. La Cour suprême a consacré jeudi le port d'armes hors du domicile en invalidant une loi de l'État de New York. Une décision qui intervient un mois seulement après une nouvelle fusillade meurtrière dans une école au Texas où 24 enfants ont été tués. Et Clarence Thomas a bien évidemment voté en faveur du port d'armes à feu hors du domicile. Pour couronner le tout, le juge Thomas est aussi un fervent défenseur de la peine de mort. Il est régulièrement perçu aux États-Unis comme le membre le plus conservateur de la Cour suprême.
Et qu'est-ce qui explique ces positions aussi conservatrices ?
Eh bien, pour comprendre qui est Clarence Thomas, il faut se pencher sur son parcours et rapidement, on se rend compte qu'il n'a pas toujours été aussi conservateur. Clarence Thomas est un homme noir aux États-Unis qui a grandi dans la pauvreté, élevé par sa mère et qui a connu la discrimination dans le pays, le racisme pendant sa jeunesse. Et il a même fondé pendant ses études un syndicat étudiant noir qui soutenait le mouvement Black Panthers. Clarence Thomas a grandi dans une famille catholique, pratiquante, et il a même un temps pensé devenir prêtre. Il est finalement diplômé en droit de la prestigieuse université de Yale en 1974 et va progressivement se diriger vers le conservatisme. Clarence Thomas, c'est un juge controversé depuis sa nomination à la Cour suprême. À l'époque, en 1991, l'avocate Anita Hill l'avait accusé d'harcèlement sexuel lorsqu'il était président de la Commission pour l'égalité des chances en matière d'emploi et qu'elle y travaillait en tant que conseillère. Et récemment, Clarence Thomas a de nouveau fait polémique et pas uniquement pour ses positions ultra-conservatrices.
Pour quelles raisons a-t-il donc fait parler de lui ces dernières années ?
Eh bien parce que sa femme n'est autre que Virginia Thomas, dite Ginny Thomas, une militante de la droite dure aux États-Unis et une fervente supportrice de l'ex-président Donald Trump. L'objectivité du juge Thomas est alors fréquemment remise en cause, surtout depuis que des preuves attestent de l'implication de Ginny Thomas dans les événements du 6 janvier 2021, à savoir l'assaut du Capitole à Washington. 29 messages démontrent qu'elle a encouragé à plusieurs reprises le chef de cabinet de Donald Trump de ne pas reconnaître le résultat des élections présidentielles, proposant au passage des stratégies légales pour porter le dossier, ou ça, devant la Cour suprême, où les conservateurs règnent en force, dont son mari. Se pose donc fréquemment la question de l'influence de Ginny Thomas sur la Cour suprême et la question d'une éventuelle démission de Clarence Thomas face au danger démocratique représenté par sa relation.
Mais pour l'instant donc, rien de tout ça n'est envisagé.
Eh bien, a priori, non, le juge Thomas est toujours en place, vote toujours à l'encontre du progressisme à la Cour suprême, et après la révocation du droit à l'avortement, il a directement annoncé vouloir aller encore plus loin en s'attaquant à d'autres acquis. Dans de futurs dossiers concernant le respect de la vie privée, nous devrions revoir toutes les jurisprudences, a-t-il écrit dans un argumentaire personnel accompagnant la décision de la Cour suprême sur le droit d'accès à l'IVG. Il cible en particulier des arrêts en date de 1965 consacrant le droit à la contraception, de 2003 qui rend inconstitutionnelles les lois pénalisant les relations sexuelles entre personnes du même sexe, et de 2015 l'arrêt protégeant le mariage pour tous aux États-Unis.
Merci Léo d'être revenu sur ce personnage très controversé du paysage juridique aux États-Unis.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et dans 36 secondes, on passe à la rubrique à table, Kitchen Conversations.
Bonjour, ici Audrey Bourget avec un nouvel épisode d'À table Kitchen Conversations. Aujourd'hui, on rencontre Sylvie Bigard, journaliste et auteur franco-suisse basée à New York. Son livre « Cassoulet Confessions » est à la fois mémoire, à la fois ode à ce célèbre plat du sud de la France. Elle nous parle de son livre et nous donne ses tuyaux pour préparer un cassoulet mémorable. Il y a peu de gens qui sont autant passionnés de cassoulet que l'auteur de Cassoulet Confessions, Sylvie Bigard. C'est d'abord l'éditeur d'un magazine américain qui l'a envoyé en France pour écrire un article sur l'histoire du plat.
La légende principale vient de la guerre de Cent Ans. Soi-disant que ce plat aurait été inventé pendant la guerre de Cent Ans, sauf erreur, c'est autour de 1300. Alors que la ville de Carcassonne était environnée par les troupes anglaises et que les habitants n'avaient presque plus rien à manger, le chef de la ville a fait savoir que avant la dernière bataille et l'assaut final, il fallait un grand repas. Nous sommes en France quand même. Donc, il a demandé à ce que tout le monde amène au centre du village ce qui restait dans leurs armoires. Et en fait, il restait pas grand-chose. Alors, qui a amené un bout de canard? Qui d'autre a amené une saucisse? Il restait des haricots parce qu'évidemment, c'était quelque chose qui se conservait facilement. Et c'est comme ça qu'on a tout cuit ensemble dans un chaudron qui sera nommé après une cassole, c'est de là que vient le mot cassoulet, donc dans ce chaudron, et la légende dit que les soldats, ravigotés par ce plat extraordinaire qu'on venait d'inventer, ont réussi à repousser les assaillants jusqu'à la Manche.
Son premier vrai cassoulet, elle a mangé dans un château de Carcassonne. La première bouchée l'a lancé dans une quête d'identité, l'écriture d'un livre qui mélange habilement son histoire personnelle à celle du cassoulet.
En fait, ça m'a pris 10 ans, ce qui est absolument incroyable quand on voit qu'il n'y a que, je crois, 154 pages, parce que je n'arrivais pas à lier les deux histoires du livre. Alors, je ne vais pas vous raconter les deux histoires parce que j'espère que les gens seront curieux et qu'ils chercheront eux-mêmes. Mais c'est deux histoires en une, n'est-ce pas? D'un côté, l'histoire de cette quête du cassoulet, quête de goût, de terroir, de culture, et de l'autre, cette histoire familiale assez dramatique qui s'entremêle avec cette quête d'identité, en fait.
Durant ses recherches, elle a entre autres appris à cuisiner le plat avec l'un des cofondateurs de l'Académie universelle du cassoulet.
C'est une association de gens de tous bords qui sont amoureux de leur terroir. En gros, c'est ça. Ce sont des gens qui ont compris que ce plat représente en fait leur culture, leur terroir. Sous la croûte, on trouve tous ces ingrédients, n'est-ce pas? Et chaque ingrédient est local, évidemment. Chaque ingrédient a une histoire. Il y a les herbes de la montagne noire, il y a les haricots de la plaine du Lauragais, il y a les canards des Corbières. Et en fait, il s'agit pour eux de défendre ce plat, de défendre leur façon de manger, qui est aussi leur façon de vivre d'ailleurs. C'est en fait l'épitome du slow food.
Les cassoulets de Carcassonne, Castelnaudary et Toulouse sont tous légèrement différents. Mais l'Académie universelle du cassoulet insiste sur une règle, il ne faut pas utiliser de panure pour la croûte.
L'Académie universelle du cassoulet n'accepte pas qu'on mette de panure, n'est-ce pas, dans le cassoulet. En fait, une des choses les plus mystérieuses de ce plat mijoté, c'est la croûte. Parce que cette croûte, elle est magique. Elle est dorée, elle est vivante. Quand on sert le cassoulet, on peut entendre la chanson du cassoulet parce que il sort du four et il est encore en train de bubble, mais il n'y a pas de panure. Alors, certains chefs, même dans des restaurants très cotés dans le monde, mettent de la panure parce que c'est plus rapide pour faire une croûte, n'est-ce pas? Et puis ça vous donne une sorte d'assurance. Si vous avez de la panure et que vous mettez quelque chose couvert de panure dans le four, ça va paner, n'est-ce pas, comme on dit. Mais ce n'est pas comme ça que le vrai cassoulet authentique est fait.
Si vous avez déjà cuisiné un cassoulet à la maison, vous avez probablement choisi votre canard, votre porc et même vos haricots avec beaucoup d'attention. Mais pour un cassoulet réussi, Sylvie Bigard recommande aussi de bien choisir les herbes de votre bouquet garni.
Je pense que ce qui est crucial, c'est de trouver des herbes qui ont du goût. Le bouquet garni se met dans le cassoulet très vite ou qui se met dans le bouillon. Donc, c'est du laurier, du persil, du céleri, du thym. C'est tout. Mais si on a des herbes qui ont vraiment du goût, de l'intensité, comment dire, ce n'est pas une question florale, mais c'est vraiment une question herbale. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe en français, mais en anglais, on dit « grassy ». C'est-à-dire qu'un cassoulet, en fait, quand on le fait bien, il n'est pas lourd. Et c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. Parce que quand on regarde ce qu'il y a dedans, ouh, il y a de la peau de porc et il y a du pork belly et le confit, c'est du canard cuit dans sa graisse et gras, gras, gras. Mais en fait, tout ce qui est herbe, tout ce qui est végétal dans le cassoulet donne, je crois, un goût où on doit essayer d'obtenir ce goût qui n'est pas un goût de graisse, qui est vraiment, si on veut, un goût de terroir.
Et pour s'assurer que votre cassoulet soit goûteux, il vous faudra passer plusieurs jours dans la cuisine. Et idéalement, le cuire d'abord pour quelques heures, puis laisser ensuite le cassoulet reposer au frais durant la nuit et terminer la cuisson le lendemain.
En fait, c'est un peu la clé de tous les plats mijotés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que, en fait, les restes sont encore meilleurs. n'est-ce pas, puisque les sucs, les herbes en particulier, l'ail et l'oignon, ont eu le temps de, on va dire, de mariner avec les viandes et avec les haricots qui absorbent aussi le bouillon. Donc évidemment, le bouillon, c'est la base du cassoulet. Et c'est évident que quand on fait un cassoulet, comme on dit en anglais, from scratch, on fait aussi son propre bouillon.
Dans son livre Cassoulet Confessions, Sylvie Bigard partage plusieurs recettes de cassoulet, de la plus authentique à la plus simple. Surtout, elle raconte l'histoire du cassoulet et celle de sa famille avec poésie. Mais vous devrez lire le livre pour découvrir comment elles sont liées. Cassoulet Confessions est publié par Hardy Grant et disponible chez tous les bons libraires.
Et nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de Radio SBS. Entre-temps, n'oubliez pas de télécharger nos podcasts sur sbs.com.au/french. Très belle fin d'après-midi. À bientôt et je vous laisse en compagnie de la grande Sophie, la mère. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.